L'article 1123, nouveau du Code civil, est consacré au pacte de préférence. Remarquons d'abord au préalable que c'est là une innovation que le Code civil français consacre des dispositions aux avant-contrats et en particulier au pacte de préférence, disposition qui se rapporte à la formation du contrat. Le pacte de préférence est défini par le législateur à l'article 1123 alinéa 1er comme un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Que retenir de cette définition ? Cette définition illustre évidemment la nature contractuelle de cet avant-contrat. On est déjà dans le contrat, quoique l'on ne soit pas encore dans le contrat projeté, qui pourra, par exemple, être un contrat de vente. Si on est déjà dans le contrat, on est, me semble-t-il, dans le degré le plus faible de l'engagement contractuel et de la force obligatoire. En effet, ainsi que l'indique justement cette définition, le signataire du pacte de préférence, qui n'est pas un promettant à proprement parler, qui ne s'est engagé ni à acheter ni à vendre, a juste promis une priorité, proposer prioritairement aux bénéficiaires du pacte de traiter avec lui pour le cas où, dans l'hypothèse, dans l'éventualité où il se déciderait à contracter, dans l'hypothèse où, par exemple, il se déciderait à vendre un bien, mais qu'il n'a pour l'heure en aucun cas promis de vendre. Donc cette définition de ce point de vue-là est, me semble-t-il, de qualité. Définition du pacte de préférence, sanction du pacte de préférence. L'alinéa 2 consacre des dispositions à la sanction du pacte de préférence. Deux hypothèses sont à envisager. Soit le pacte de préférence est violé parce que le signataire du pacte vend à un tiers de bonne foi, soit le pacte de préférence est violé parce que le signataire du pacte vend à un tiers de mauvaise foi. Si le signataire du pacte contracte en dépit de celui-ci avec un tiers de bonne foi, le bénéficiaire pourra obtenir la réparation du préjudice subi, c'est la sanction classique de l'allocation de dommages-intérêts contractuels. Mais supposons maintenant que le signataire du pacte, passablement indélicat, contracte avec un tiers de mauvaise foi, lui-même indélicat, défini comme celui qui a connaissance de l'existence du pacte, d'une part, et d'autre part, qui a connaissance de l'intention du bénéficiaire du pacte de s'en prévaloir. Dans ce cas, on le voit, l'article 1123 alinéa 2 reprend la définition de la mauvaise foi que la Cour de cassation avait déjà donnée en 1982, deux éléments donc, connaissance de l'existence du pacte et intention, connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, aspect éminemment subjectif et difficile à prouver. Eh bien, en ce cas, l'alinéa 2 de l'article 1123 reprend, il fait sien la jurisprudence rendue en chambre mixte bien connu le 26 mai 2006, jurisprudence au terme de laquelle le bénéficiaire du pacte, dont les droits ont été méconnus par une vente, par exemple, au profit d'un tiers de mauvaise foi ainsi défini, eh bien, le bénéficiaire du pacte pourra non seulement demander la nullité de la vente à ce tiers, solution traditionnelle, mais également sa substitution dans les droits du tiers de mauvaise foi, solution rendue en chambre mixte le 26 mai 2006, solution consolidée dans cette nouvelle disposition, qui est une sanction, rappelons-le, très efficace lorsque les conditions peuvent en être démontrées, ce qui est évidemment un sujet en soi. Alors, définition du pacte, sanction du pacte, maintenant prévention du pacte. Le dernier alinéa de l'article 1123 est tout à fait remarquable en ce qu'il pose une des trois actions interrogatoires de l'ordonnance du 10 février 2016. Action interrogatoire en matière de pacte de préférence, action interrogatoire en matière de représentation, action interrogatoire en matière de nullité. Ces trois actions interrogatoires, dont celle de l'alinéa 3, ont en commun d'être d'application immédiate au contrat même conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. C'est dire leur importance. Cette action interrogatoire a un objectif de prévention. Elle doit permettre aux tiers qui suspectent l'existence d'un pacte de préférence d'écrire au bénéficiaire putatif du pacte de préférence pour lui sommer de se prononcer, pour l'interpeller, pour l'interroger. Cette action interrogatoire répond à des conditions de forme et de délai, puisque le tiers qui envisage la conclusion du contrat peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, délai raisonnable, condition de fond, même si aucun seuil précis n'est fixé, l'existence d'impact et s'il entend s'en prévaloir. Autrement dit, cette action interrogatoire, c'est un moyen pour le tiers qui souhaite, par exemple, acquérir un terrain à son profit, terrain sur lequel il suspecte qu'un pacte de préférence aurait pu, par exemple, être conclu au profit d'un autre de ses voisins, il peut écrire à son voisin qu'il suspecte être le bénéficiaire du pacte et lui demander de se prononcer. Êtes-vous bénéficiaire d'un pacte de préférence? Et si oui, entendez-vous vous en prévaloir? Ceci par écrit, avec une sanction très forte de cette institution qui tend à assurer la sécurité juridique et la prévention des contentieux, c'est que si d'aventure le bénéficiaire putatif dûment interrogé ne répondait pas, en ce cas, eh bien, le bénéficiaire, ce bénéficiaire, perdrait, nous dit le texte, la faculté de solliciter sa substitution au contrat ou de solliciter la nullité de la vente au profit du tiers. Le silence, en quelque sorte, du bénéficiaire sera retenu contre lui. Son silence vaudra acceptation par exception, puisque on est dans une hypothèse dans laquelle le silence vaudra acceptation.